et j'adore voir les autres entrepreneurs avoir des résultats, vivre de leur business. Enfin, je me sens utile, tu vois. Et ça, vraiment, ça, c'est ma motivation qui me porte toute l'année. Le fait d'avoir l'impression d'avoir un impact positif sur d'autres business et sur la vie d'autres personnes.
Après,
quand on rentre en période de lancement, il y a d'autres choses un petit peu plus dirty qui arrivent en termes de motivation. Je passe en mode bulldozer, clairement, dans ces moments-là. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai des jours où l'énergie n'est pas là, alors qu'elle a besoin d'être là. Mais ouais, c'est la première année que je suis autant attentive à tous ces aspects physiques, mentaux et d'énergie, de choses comme ça. Et en fait, il y a eu une semaine particulièrement, fin janvier, où le pic de stress était tellement intense que là, j'ai vraiment cru pour la première fois de ma vie que je n'allais pas y arriver. Mais vraiment, en mode, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et je me souviens vraiment d'être dans ce moment de découragement total. Pas baisser les bras, mais en mode, même avec toute la volonté du monde, je ne vois pas humainement comment ça va être possible.
Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leurs blocages, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Bon Aline, je suis vraiment content de te retrouver pour un deuxième épisode ensemble sur ce podcast. Comment est-ce que tu vas ce matin ?
Salut Nicolas, bah écoute, ça va très bien, je suis trop contente, je prends mes aises, c'est ma nouvelle maison ici, donc merci de m'accueillir à nouveau.
Pour ceux qui ont suivi, t'es venu sur le podcast du coup, sur ce neuvième épisode où on a fait un petit podcast en live, toi et moi, on l'avait enregistré sur Paris au mois de décembre, juste avant la soirée de Romain Collignon. Et donc j'invite tous ceux qui connaissent pas Aline, pour pas refaire vraiment une présentation de la totalité de ce que tu fais, le petit passage de savon, c'était hyper cool. On a passé un très bon moment, c'est passé de un peu qu'est-ce que tu faisais à des phases de recrutement, beaucoup de tips d'ailleurs que tu nous as partagés sur cette partie-là, de comment tu organisais, que tu planifiais et que tu anticipais tes recrutements à l'avance. Est-ce que juste rapidement, pour ceux comme ça qui vont saisir l'épisode et peut-être qui n'ont pas entendu le premier, tu peux nous redire ce que tu fais aujourd'hui ?
Pas de souci, on va y aller de manière laser. Donc, je suis coach business et j'ai fondé The BeBoost, qui est une entreprise. En fait, on fait de la formation pour les entrepreneurs. Donc, grosso modo, long story short, on crée des formations pour aider tous les entrepreneurs, les freelance, les solopreneurs à développer leur business, à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie et à construire le business de leur rêve.
Et ça construit des business de rêve. Quand je repense à notre petit groupe, quand il y en a une qui a annoncé, parce que du coup, le jour où le podcast sort, on est le 24, donc on peut en parler. On sera passé le 22, vu notre réunion d'hier, où on en a une qui fait vie à Bali en plein lancement du coup, et qui part vivre à Bali, donc vide des rêves. C'est totalement les mots adaptés. Aujourd'hui, tu reviens sur cet épisode pour un cas un peu particulier où là, on va vraiment parler de toute ta préparation pour un lancement à 7 chiffres, ce qui devient quand même quelque chose d'impressionnant peut-être pour les personnes qui nous entendent. Peut-être c'est leur cas. Je sais qu'il y en a certains qui font déjà plus de 6 chiffres à l'année, certains de très gros et d'autres qui se lancent. On a vraiment tout un panel d'entrepreneurs dans l'auditoire. Et tu nous le diras, mais je pense que la totalité des conseils, en tout cas, que tu vas nous partager, quel que soit le niveau de lancement ou de la chose que vous vous apprêtez à lancer, même si c'est pas un business, mais peut-être simplement un podcast, c'est des conseils qui pourront s'appliquer, quel que soit ce que vous allez préparer, et tu nous le confirmeras.
Oui, alors du coup, c'est la première fois de ma vie que j'annonce à voix haute mon objectif. Donc là, tu parles de lancement à 7 chiffres, c'est effectivement l'objectif. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à le dire à voix haute parce que j'avais l'impression d'être prétentieuse. Et deux, je suis à la fois partagée entre, je me mets en mode manifestation, je le déclare à voix haute en espérant que ça arrive. Et en même temps, j'ai peur pour mon karma en mode, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, effectivement, on est en train de se préparer pour, je suis en train de me préparer pour un lancement à 7 chiffres. Et à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, le lancement n'a même pas commencé. Donc, aucune idée de si on va y arriver ou pas. Par contre, effectivement, je vais pouvoir te parler de comment est-ce que je m'y prépare, parce que forcément, on n'a pas le même quotidien. Et je pense que ça peut effectivement s'appliquer à tout le monde. Après, tu vas voir que moi, je suis un peu dans les extrêmes. Donc, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça au quotidien. Par contre, ça peut être des tips. Je suis sûre qu'il y a peut-être des choses que je mets en place qui pourraient aider des personnes quand ils s'apprêtent à vivre un moment particulièrement dense dans leur année ou de leur business, à condition que ce soit temporaire, évidemment.
Ouais, parce qu'il faut le rappeler, t'es un peu une machine de guerre du travail, avec un chronotype plutôt lion, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment tu t'organises le reste de l'année déjà, tu vois, pour remettre aussi peut-être à plat dans le contexte et pas dire, waouh, je suis obligé de bosser des heures et des heures, ou de, comme tu l'as dit, de ça, c'est des choses qui marchent pour toi, parce que tu sais que tu fonctionnes comme ça aujourd'hui. Donc déjà, il y a un gros travail sur la connaissance de toi, de ton système de productivité. Comment le reste de l'année, avant cette phase de lancement, tu travailles peut-être, et comment tu t'organises?
Effectivement, je pense que le reste de l'année, j'ai plutôt un rythme assez cool pour moi, mais assez classique, c'est-à-dire que je dois bosser 40 à 50 heures par semaine, donc qui est quand même un gros rythme de travail, mais qui est pas non plus, on n'est pas non plus sur du 70-100 heures par semaine. Plutôt avec un chronotype lion, donc je me lève tôt le matin, je suis très productive tôt le matin, j'ai tendance à être beaucoup moins productive après 16 heures, et j'ai généralement le reste de l'année des jours off, au moins un jour off par semaine. Et c'est très bien que tu le précises, donc merci pour ça, parce que quand je fais ce genre d'épisode, j'aime bien faire un disclaimer en début, en mode, ce que vous apprêtez à entendre n'est pas le reflet de ma vie, c'est le reflet d'une période charnière dans un business model où j'ai 80% de mon chiffre d'affaires qui se joue sur un lancement. Donc clairement, on est dans les 3 mois de l'année les plus chargés pour moi, ceux où je ne compte pas mes heures, où je n'ai plus aucun hobby, aucune vie personnelle et où je bosse comme une tarée, mais ce n'est absolument pas représentatif ni du reste de l'année, ni de ce qu'un entrepreneur doit faire, entre guillemets, pour réussir. Et ça me semble toujours très important de le préciser.
Ouais, et je pense qu'on peut rajouter un disclaimer. Je pense que je commence à les caler à force de t'écouter, justement, tu vois, pour anticiper les réflexions que les gens pourraient avoir. Ça t'empêche pas totalement d'avoir de vie privée, parce qu'encore ce week-end, tu as pris le temps de voir des business potes sur Paris avec le passage de Geneviève. Je sais que t'étais avec certains. J'ai failli passer vous voir, du coup, le samedi, mais c'était vraiment trop la course pour moi. Mais voilà, tu vois, c'est aussi rappeler que ça t'empêche pas, et que c'est pas quand tu dis, OK, peut-être ça te limite, mais aussi tu en profites aussi, tu vois.
Oui, alors effectivement pour moi ça me limite, parce que là je suis limitée à une sortie tous les 15 jours alors que le reste du temps je sors 3 ou 4 fois par semaine, mais mais effectivement oui, je sors quand même de ma grotte de temps en temps.
Tu sais, on dirait que c'était période de sortie en prison, j'ai une sortie tous les 15 jours.
Après je suis une, j'aime bien dire que je suis une grosse fêtarde, dans le sens où je suis une introvertie, j'adore être chez moi, j'adore être toute seule, etc. Mais j'adore aussi sortir, dîner dehors, aller danser, vivre ma meilleure vie. Donc forcément quand j'ai des périodes comme celle-ci où c'est une fois tous les 15 jours, ça fait bizarre, quoi.
Ouais, je veux bien te croire, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Comment, peut-être je vais commencer par là, où est-ce que tu puises cette source de motivation pour dire, parce que pour toi, certes, comme tu l'as dit, c'est un gros challenge, c'est 90% de ton chiffre d'affaires sur une très courte période. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à générer autant et te pousser autant à la tâche, tant habituellement, peut-être, le reste du temps, comme tu le disais, quand cette période-là, est-ce qu'il y a un switch qui se fait au niveau de ta motivation? Est-ce que c'est toujours la même chose? Où est-ce que tu puisses ça?
Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau, qui est un peu celui qui me porte toute l'année, c'est clairement, j'adore mon boulot. Et j'adore voir les autres entrepreneurs avoir des résultats, vivre de leur business. Enfin, je me sens utile, tu vois. Et ça, vraiment, ça, c'est ma motivation qui me porte toute l'année. Le fait d'avoir l'impression d'avoir un impact positif, sur d'autres business et sur la vie d'autres personnes. Après, quand on rentre en période de lancement, il y a d'autres choses un petit peu plus dirty qui arrivent en termes de motivation. Je passe en mode bulldozer, clairement, dans ces moments-là. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai des jours où l'énergie est pas là, alors qu'elle a besoin d'être là. Et là, les choses qui me drive, ça va être déjà, pas le choix. Je me suis engagée. Moi, généralement, quand je dis un truc à voix haute, je reviens jamais en arrière. Enfin, ça a dû m'arriver une fois dans ma vie, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est un moteur très puissant pour moi, le fait de vouloir respecter la parole que j'ai donnée. Le goût de la compétition et du challenge me porte aussi beaucoup dans ces périodes-là. Et ça, c'est le côté, je le dis par souci de transparence et d'authenticité, mais j'en suis pas très fière. Le goût de la compétition, mais en mode, j'ai envie de prouver ce que je vaux, tu vois. Et même les jours où des fois j'ai envie de parce qu'il y a des soirs comme ça en ce moment, tu vois, forcément, vu que je puise beaucoup dans l'énergie, il y a des soirs où j'ai envie de pleurer, où je pleure, tu vois, tellement j'en peux plus, j'ai l'impression que je vais pas y arriver et tout. Qu'est-ce qui me motive dans ces moments-là? Alors là, c'est pas du coup le fait d'avoir une œuvre caritative ou de faire le bien autour de moi. C'est clairement de dire, je vais leur prouver à tous ce que je vaux. Et généralement, c'est ça qui fait que je vais courir le kilomètre supplémentaire, quoi.
Ok. Et du coup, dans cette première partie, si je la reprends dans l'ordre, le premier, tu parlais un peu de contribuer comme ça à l'évolution des personnes. Est-ce que tu dirais que pour toi, du coup, c'est une valeur importante et quand tu vois les résultats, ça te permet de contribuer à ça et de générer plutôt des émotions positives et du coup, de continuer à te challenger et à apporter beaucoup plus?
Valeur numéro un, ouais.
Ok. Ça, c'est vraiment très cool. Tu vois, j'en parlais encore dans deux coachings hier, la même problématique. Et tu vois, c'était de pas connaître ses valeurs, je dirais, vraiment alignées à soi. Tu vois, pas souvent, tu trouves des e-books ou tu vois des posts où les gens, ils disent « Ok, trouve tes valeurs. » Et je vois beaucoup de personnes les chercher mentalement et se les hiérarchiser mentalement. Et là, on voit chez toi où ça fonctionne parfaitement. Donc, je sais pas quel travail tu as fait là-dessus, mais je sais que tu en avais parlé un peu du séminaire Stéphane Nicolas que tu avais suivi. Peut-être tu as travaillé ça à ce moment-là. Mais voilà, de hiérarchiser tes valeurs et de savoir comment ça fonctionne pour toi. Tu sais que bah toi, du coup, c'est quelque chose qui te permet de driver et de driver tes objectifs en conséquence. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et je le vois autant dans les discussions qu'on a que là, dans les échanges qu'on a eu encore hier soir pendant la réunion. Même si t'as de la fatigue et tu le disais, tu vois, peut-être après 16h ou 17h pour toi, ça va tomber. Bah, t'es encore là le soir pour les onboardings, pour le contenu, pour discuter, malgré le groupe WhatsApp qui te s'arrache de ouf dans tous les sens, quoi. Ce goût de la compétition, est-ce que qu'est-ce qui te motive le plus là-dedans? Quand tu parles de compétition, est-ce que c'est avec toi-même? Est-ce que c'est parce que tu te fixes des targets, tu vois, peut-être avec d'autres entrepreneurs et que vous mettez un petit challenge, tu vois, entre vous pour dire en toute bienveillance, tu vois, te connaissant, comment ça fonctionne chez toi ce côté-là?
C'est un petit, le tableau est un peu plus noir que ça, Nicolas.
J'aime les tableaux noirs, alors.
Non, mais enfin, je pense qu'il faut dire les choses bien en mode, oui, je fais ça pour apporter le bien autour de moi. Il faut aussi être transparent sur ce qui nous anime. Et moi, je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai le goût de la compétition, mais c'est pas forcément la compétition la plus saine du monde, qui est la compétition de, je veux être la première. Genre, je voulais être la première dans ma classe dès que je faisais une compétition, que ce soit, genre, j'ai fait des concours de piano ou, à un moment, j'ai essayé de faire du sport, mais ça s'est pas très bien passé. Enfin. Et en fait, à chaque fois que j'étais dans une optique de compétition, c'était la première place ou rien. Donc, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Mais c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Et du coup, ça me drive aussi pas mal. Et surtout, c'est ce qui vient, on va dire, renforcer et soutenir les valeurs de bienveillance, d'impact positif, etc. Quand je commence à bien piocher dans mon énergie et à être fatiguée. Donc, il y a aussi cette dimension de prouver qui je suis, ce que je vaux et être, entre guillemets, selon la petite fille qui parle en moi, la numéro un, quoi.
Ok, ouais, donc vraiment ces deux derniers points où tu parlais de compétition et de prouver ce que tu vaux, c'est vraiment deux choses qui se relient et du coup qui vont, pour moi en tout cas, je le prends comme ça, qui vont contribuer à tes valeurs, mais qui jouent sur une valeur importante de toi finalement, parce que ça te sert aussi à te motiver. Est-ce que sur ce target de preuve, est-ce que pour toi c'est d'autant plus important que t'es une femme dans le business? Et où on vit à une époque où ça prend d'autant plus d'importance en ce moment le de reprendre entre guillemets votre place. On voit souvent ça. Je comprends pas pourquoi le terme reprendre que prendre ou et encore on s'en fout tu vois, mais d'avoir votre place, je dirais tout simplement au sein des plus grands leaders de ce monde, parce que c'est vrai que ça a été beaucoup l'homme dans les décennies et les décennies à venir. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est d'autant plus important du fait du coup?
Ouais, alors c'est une question hyper pertinente. En toute honnêteté, non, parce que moi, à titre personnel, j'ai jamais ressenti à aucun moment de ma vie que je devais prouver quelque chose de plus qu'un homme. Et jamais j'ai reçu des remarques ou des comportements qui m'ont fait sentir qu'en tant que femme, j'avais moins de droits ou moins de possibilités qu'un homme. Donc, je pense que j'ai été privilégiée de par l'environnement, la famille, le contexte dans lequel j'ai grandi. Évidemment que la cause me touche en tant que femme, mais moi-même, à titre personnel, je l'ai jamais expérimenté et j'ai pas l'impression que cette compétition et ce goût de montrer ce que je vaux, entre guillemets, soit relié à ça.
Ok. Ok, ok. Du coup, ça permet de remettre beaucoup plus dans le contexte, mais je pense qu'en tout cas, comme tu le disais, c'est une cause que tu comprends et que tu soutiens, et je pense que t'es un très bel exemple pour cette cause, entre guillemets, si on peut appeler ça une cause, mais je trouve que t'es vraiment, sans le vouloir, peut-être, porteuse de ce projet, en tout cas, de par les résultats que t'apportes, tant au travers du podcast, quand tu vois les résultats, que t'as passé le million de téléchargements, pour moi, je trouve en très peu de temps, et je trouve ça phénoménal, tu vois, pour un podcast francophone, parce que du coup, tu vois, outre-Atlantique, t'arrives à avoir des résultats assez hallucinants, parce que mine de rien, bah, l'anglais, c'est une langue qui est utilisée à l'international, contrairement au français. Et je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Et du coup, ça permet de nous retrouver un peu, de comprendre un peu mieux comment tu te motives. Et quel est un peu ta... Est-ce que tu te drives aussi avec une target sur ta vision, peut-être à d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans? Comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, cette vision, qui te porte ou pas du tout, et tu fonctionnes vraiment, comme tu l'as dit, là, plutôt au challenge, à la compétition, à l'objectif?
J'ai une vision sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Mais je ne peux pas dire que c'est ça qui me drive. Moi, je me drive plutôt aux objectifs et plutôt aux objectifs à court terme. Donc, c'est-à-dire que là, il y a 6 mois, quand je dis à l'équipe, on va faire un lancement à 7 chiffres, c'est notre target, c'est notre objectif. Je me drive à ça, tu vois. Évidemment que je sais plus ou moins ce qui va se passer après, ce dont j'ai envie après dans le business, mais je ne me dis pas, je vais faire ce lancement parce que dans 5 ans, je pourrais, je sais pas, acheter une villa au bord d'une falaise ou un truc comme ça, tu vois. C'est vraiment... Ok, j'ai fait cet objectif. J'ai pas envie de me décevoir moi-même. J'ai pas envie de décevoir mon équipe. J'ai pas envie de décevoir les gens auprès de qui je me suis engagée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais l'envie de prouver, de pas décevoir, c'est un moteur très fort chez moi.
Ok. Et du coup, est-ce qu'à chaque fois que t'as pris un objectif comme ça, il était en lien avec cette vision que t'avais, quelque part qui t'en rapprochait, ou tu n'y prêtes même pas attention?
Est-ce que tu peux reformuler ta question? Je suis pas sûre d'avoir bien compris.
Ouais, je suis pas sûr de l'avoir compris aussi si je la reprends, mais qu'on soit honnête. En fait, le truc, c'est, tu vois, tu te dis, tu te fixes sur l'objectif à court terme, par exemple là, ton objectif annuel, mais est-ce que tu fais en sorte que cet objectif annuel soit toujours un step pour te rapprocher de la vision que tu as, que ça soit à 5 ans, à 10 ans ou à 20 ans, ou est-ce que c'est pas si important que ça, parce que peut-être pour toi, l'objectif est d'autant plus challengeant, celui à court terme, qu'il t'en rapproche ou qu'il t'en rapproche pas.
Alors oui, clairement, je me fixe pas d'objectif et certainement pas d'objectif challengeant si ça se si ça pas dans la direction de la vision que j'ai pour ma vie, pour mon business, etc. Après, je suis pas une psychopathe de la vision dans le sens où elle est pas très détaillée ma vision à 5 ans, à 10 ans, du tout, du tout, du tout. Par contre, effectivement, je vais pas me challenger et mobiliser 6 mois de ressources financières, de temps, d'énergie, de ressources humaines pour un objectif qui est pas au service de la vision que j'ai pour mon business.
Ok,
Donc oui, il y
donc
a quand
pour
même du lien, quoi.
ouais, t'as quand même un lien, mais voilà, c'est tu vas pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qui va se passer et tu restes quand même du coup détaché. Et est-ce que tu, en fait, c'est ça, voilà, ouais, la question, je vais peut-être la reformuler différemment tout de suite. Est-ce que du coup cette vision, tu te permets de la retravailler régulièrement pour la réaxer et être sûr qu'elle soit toujours alignée avec ce que t'es aujourd'hui? Parce que du coup, c'est souvent ça qu'on amène tant sur un objectif matériel. Tu vois, peut-être au-delà pour toi aujourd'hui, c'est le 7 chiffres qui est important. Peut-être tu t'es prévu une récompense, tu vois, je sais qu'on fonctionne beaucoup comme ça, et le fait de dire ok, j'ai atteint l'objectif mais pas matérialiser la récompense parce qu'à ce moment-là il y a quelque chose qui sera plus important pour moi. Est-ce que cette vision du coup qui te sert un peu de ligne conductrice, si on peut dire, est-ce que tu te permets de la remanier en fonction de tes envies actuelles, ou est-ce que tu la laisses telle quelle et que tu avances dessus sans jamais revenir dessus?
Ah non, elle change tout le temps. Enfin, très régulièrement, cette vision long terme. Et justement, je pense que c'est pour ça que c'est dangereux d'avoir une vision long terme trop détaillée, sauf si on en éprouve le besoin, évidemment, parce qu'en fait, elle change tout le temps. Et j'ai un exemple très précis en tête qui a été une grosse zone de flou pour moi, c'était en 2021. Donc, j'ai fait le lancement 2021 au mois d'avril. Et en fait, mon objectif, c'est bon, OK, de faire un lancement à 6 chiffres. J'avais un objectif de 500 000 euros de chiffre d'affaires sur ce lancement-là et de me dire, bah, et mon gros objectif, ma vision à ce moment-là, c'était d'amener The Beboost pour être un business qui fait plus d'1 million sur l'année d'ici 2022-2023. Moi, j'aurais dit 2022, ce serait trop cool, c'est l'année de mes 30 ans, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On va pas se plaindre, hein. En avril, on fait un lancement à 750 000 euros. Le million était largement assuré avant la fin de l'année. Et en fait, donc mes objectifs à moyen terme, donc à 2 ou 3 ans que je m'étais fixé, la vision qui me drivait depuis que j'ai lancé ce business, qui était de faire le million pour me prouver que j'en étais capable, je me dis, merde, je vais l'atteindre cette année. Je vais l'atteindre à 29 ans, mais du coup, c'est quoi le après? Et en fait, curieusement, après le lancement de 2021, donc là, on était au mois de mai, après le lancement, j'ai eu une période de 3-4 semaines, je ne savais pas ce que je voulais faire avec le business parce que j'avais atteint mes objectifs trop tôt. Alors, je ne suis pas en train de me plaindre, hein. Pas du tout. Au contraire, j'étais très contente, très fière de moi, mais c'était très étrange et très déroutant comme sensation de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et surtout que j'avais une équipe de 10 personnes derrière qui disaient, bon, bah, on fait quoi alors maintenant, Aline, c'est quoi la direction? Et là, tu es en mode, zut, je suis leader, je suis censée avoir la direction pour mon business. Là, je l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, grosse remise en question. J'ai beaucoup travaillé. En plus, je suis pas quelqu'un qui arrive à pondre une vision comme ça en claquant des doigts. Tu vois, j'ai besoin. Enfin, Je pense que tu as aussi un peu cet esprit que j'appelle un esprit créatif, mais où des fois les idées te viennent un petit peu du ciel, la vision aussi. Ce qui est génial parce que ça c'est très simple, c'est très fluide. Et en même temps, c'est la contrainte, c'est que bah des fois quand ça vient pas quoi, tu vois. Et tu peux pas le forcer. Et en fait, effectivement, pendant 4-5 semaines, je me souviens vraiment d'avoir été dans le flou total sur c'est quoi la suite avec The Bee Boost. Je n'en avais aucune idée. Avec une équipe derrière qui me disait bah c'est quoi la suite, et moi je disais bah j'en ai aucune idée. Puis après l'idée s'est dessinée tout doucement, et puis maintenant on a une nouvelle vision, etc., et on s'en va vers ça. Mais c'était une grande anecdote, une grande histoire pour te dire que oui, je m'autorise à changer ma vision très souvent. Et justement, je trouve que plus on passe des caps importants dans notre business, plus on atteint certains objectifs, plus cette vision va changer. C'est totalement OK.
Ok, c'est très cool que tu partages ce moment-là, parce que du coup, j'allais venir là-dessus sur des choses que je vois régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne tant dans les accompagnements de groupe sur lesquels je vais participer aussi avec toi, sur d'autres équipes, ou tant dans les individuels. Est-ce que à ce moment-là, ou peut-être tu l'as vécu à d'autres moments, quand tu perds un peu cette vision, est-ce que chez toi, en tout cas, ça a généré peut-être un ralentissement de la motivation, pas une baisse totale, mais est-ce que ça a généré quelque chose qui était moins motivant, moins dynamisant, malgré le fait que toi, du coup, tu l'avais atteint plus rapidement. Et comme tu le dis, tu vois, c'est très cool, et on parle pas de se plaindre, dans tous les cas, moi, je l'interprète pas comme ça. Mais est-ce que ça te crée un truc de dire, waouh, qu'est-ce qui se passe après, tu vois, et de créer un petit down léger, ou plus ou moins grand, tu vois, en fonction de chaque personne, je pense. Est-ce que t'as eu cet effet-là aussi?
Alors, dans mon cas, oui, clairement, parce que plus de vision, plus d'objectifs, je ne savais plus pourquoi je bossais, donc je bossais plus. Et en plus, c'est venu s'accumuler, enfin s'ajouter, on va dire, à la fatigue accumulée du lancement, après lequel je n'avais pris aucune vacance. Et en fait, fatigue chronique accumulée, plus manque de vision, je sais pas où je vais, bah forcément, Aline, elle faut rien, quoi, tu vois. Grosso modo, c'était ça pendant quelques semaines.
Ouais, non, mais je trouve ça hyper important, tu vois, et je trouve ça d'autant plus cool que tu nous partages ça, parce que moi, c'est des choses que je revois régulièrement. Et quand tu parles des fois des entrepreneurs, quel que soit leur niveau, hein, qu'ils fassent 6 chiffres à l'année, par mois, ou 4-5 chiffres, et ben en fait, quand tu leur parles de ce côté-là, de vision, de se driver, en sachant quand tu nourris tes valeurs ou pas, de mieux définir tes objectifs, t'as l'impression que tu leur parles chinois, tu vois. Mm-hmm. Et finalement, tu fais 1-2 sessions avec eux, et là, ça devient genre l'éclair de génie. Et tu vois, on le voit d'autant plus avec toi, où tu l'as vécu, et que ça t'a permis... Après, je pense qu'avec l'expérience, comme tu l'as dit, là, ça a mis 4-5 semaines. Je te dis que je trouve ça génial, parce que moi, je l'ai vécu encore cet été, et je savais pas ce qui se passait, tu vois. Et pour moi, tout était clair, parce que tout était défini. Et c'est simplement que j'avais, comme toi, pété cette vision des 3 ans. J'avais pas vu ces 3 ans passer, et que j'avais pas défini encore plus loin, tu vois. Malgré que j'avais, comme toi un peu, j'ai ce truc-là qui se télécharge par moment, en mode, ça arrive, tu sais pas d'où. J'avais ces petits trucs-là, tu vois, mais c'était le step entre les deux qui me manquait. Et du coup, je te remercie en tout cas pour ce partage. C'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. Donc, je pense que tu vois, si tu nous écoutes là à ce moment-là et que c'est quelque chose où tu vas te reconnaître soit à un moment donné de ta vie ou peut-être en ce moment ou qui va t'arriver, colle un post-it devant toi et réécoute l'épisode à ce passage, parce que je pense que ça te fera tilt à ce moment.
Et tu sais, je peux peut-être juste partager une dernière chose, parce que je sais pas comment sont les auditeurs de ton podcast par rapport à ça. Je sais que les miens sur mon podcast aiment beaucoup le concret, en mode OK, d'accord, bah Nico, Aline, là je suis dans cette situation-là. Vous dites que c'est normal et qu'en fait ça peut revenir, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce qu'il y a des exercices, des choses comme ça? Et moi, je sais qu'effectivement, ça a mis 4-5 semaines à revenir, mais c'est pas revenu comme par magie. Tu vois, j'ai travaillé pour ça. Et ce que je fais quand je suis dans ces périodes de doute où je suis en train de chercher ma prochaine vision, c'est que je refais les exercices les plus basiques du business, c'est-à-dire tous les exercices sur la vision, le pourquoi. Mais littéralement, enfin, moi, dans mon cas, je prends les workbooks de ma propre formation. Tu vois, le fameux, tu connais, le fameux module zéro, trouver sa vision.
Bloc zéro, on peut dire pour cette année.
Voilà, non, il a changé cette année, mais bref. Et je refais tous les exercices, en fait, mais comme une débutante. C'est-à-dire que je me dis, OK, pourquoi je lance ce business? C'est à qui je veux parler? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle vie je veux créer? Et vraiment, en me remettant dans ce fameux beginner mindset, comme si je lançais en fait un nouveau business parce que je recherche ma nouvelle vision, eh ben, ça débloque plein de choses. Et ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement dès que je me sens au ralenti ou que je sens que je suis en train un peu de me désaligner ou des choses comme ça.
Ok, top. Et est-ce que ça marche? Est-ce que tu utilises d'autres outils? Tu vois, moi, par exemple, j'ai mis à disposition sur Behind, c'est... un peu le lead magnet que j'utilise en ce moment, qui est en train d'être modifié un peu pour rendre aussi cette expérience beaucoup plus simple, parce que je trouve qu'elle est un peu compliquée à atteindre aujourd'hui, et c'est un peu ce que je partage aujourd'hui avec les auditeurs, où j'amène un protocole, tu sais, un peu PNL, en mode visualisation, un peu une approche PNL et hypno en même temps, et qui te permet de mêler ton mental à ton inconscient pour vraiment décrocher aussi pour les personnes qui sont trop mentales ou aussi en mode créatif comme toi et moi, où tu vois, ça te permet d'aller plus loin peut-être. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser ça ou tu le fais vraiment en mode workbook systématiquement?
Non, je le fais vraiment en mode workbook, journaling ou alors réflexion, mais rarement avec des outils comme comme ceci.
Ok. Top.
Enfin, même je dis rarement, mais en fait, c'est jamais.
Ok. Mais au moins, tu vois, ça valide que chacun a peut-être sa définition, son utilité. Est-ce que quand tu fais cette vision et que tu reprends la totalité de ces exercices, tu les utilises uniquement dans la partie business ou est-ce que tu les mêles aussi à la partie peut-être sphère un peu plus privée? Quelle est ta vision pour toi? Quelle est ta vision de ton business? Et que tu mêles les deux?
Je pense qu'il y a forcément un petit peu de privé qui vient là-dedans parce qu'on peut pas faire fi de qui on est, notre personnalité, de ce qu'on veut dans la business qu'on construit. Mais c'est quand même 80% centré sur le business. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin de corriger. Ça fait partie des choses sur lesquelles je souhaiterais travailler cette année.
Attends, je sais que t'avais partagé ce moment-là aussi, peut-être l'année dernière. Alors, je sais plus si c'est quand on a discuté ou dans un de tes podcasts où tu disais que c'était quelque chose qui était de plus en plus important pour toi. En tout cas, cette sphère. Est-ce que, tu vois, j'ai fait un podcast avec Alex aussi, Alex Viseo. Lui, il disait, tu vois, il voyait ça un peu, je crois que c'est dans sa méthode d'introspection où il en parlait, où comme ça, tu te poses devant ta feuille et il s'oblige quelque soit à rester devant cette feuille. Tu vois, je parle dans le cas où tu fais un peu tu reprends ton workbook vision. Est-ce que aussi tu restes devant un certain temps, même quand t'as pas d'idées qui te viennent, ou s'il y a pas d'idées, tu passes à autre chose, mais tu le gardes sous la main?
Non, il y a aussi un moment où je m'oblige un petit peu, c'est-à-dire que son exercice que j'ai déjà fait, enfin que j'ai tellement fait, qui sont aussi tellement débutants, que mon premier réflexe quand je me mets moi-même devant ce workbook, c'est « Non, mais ça, je sais, c'est dans ma tête, la flemme de l'écrire, j'ai déjà fait 10 fois le truc. » Et en fait, à chaque fois, je me dis « Non, Aline, discipline-toi, refais-le, fais-le à fond, comme si c'était… » Il y a Siri qui s'allume. Super. Refais-le à fond, comme si c'était la première fois que tu faisais ces exercices. Et c'est pas agréable dans le sens où moi, je suis quelqu'un, je fonctionne beaucoup au temps, j'aime pas perdre du temps, etc. Et pour moi, je le vis comme une perte de temps d'avoir des trucs dans ma tête et de devoir perdre du temps à l'écrire, quoi, tu vois. Mais en même temps, à chaque fois, c'est tellement bénéfique, il y a tellement des nouvelles idées qui sortent, de l'alignement qui se crée, des déclics qui arrivent, que il y a ce petit côté où je m'oblige à le faire, quoi qu'il arrive, quoi.
Ok. Mais tu vois, je pense que c'est important aussi de partager ce moment-là. Je pense que, et moi je le vois, en tout cas je fonctionne comme ça, si je repousse, en fait je reviens jamais dessus, même s'il est devant moi, au bout d'un moment je vais l'enlever de mon regard parce que je sais qu'il y aura trop de trucs sur mon bureau, et finalement je l'aurais jamais fait, et comme tu le dis, c'est peut-être des excuses qu'on va se raconter, ou la petite voix qui va nous parler, et dire, ah, fais ça plus tard, c'est trop basique, et c'est ce que je t'avais dit quand tu m'as posé la question l'année dernière, que je suis rentré dans la BSB, et tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu fous là au bout d'un mois? Mais je t'ai dit, bah d'une, ça me challenge, ça me permet de répéter les messages différemment. Et je crois que je l'ai partagé dans la vidéo que je vous ai envoyée hier ou avant-hier de témoignage, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait ça me permet encore aujourd'hui de le rouvrir, tant pour revenir peut-être sur des choses très basiques que pour comprendre des messages différemment, peut-être qui n'étaient pas importants pour moi à ce moment-là. Et je trouve ça vraiment génial parce que du coup ça te permet d'aller plus loin en tout cas. Et c'est vraiment cool aussi que tu reviennes sur cette partie-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur cette source de motivation, de comment tu te drives et autres. Si on en vient vraiment là à cette phase préparatoire, pour cette phase de lancement qui était vraiment importante pour toi, comment est-ce que tu t'es préparé? Qu'est-ce que t'as anticipé? Parce que souvent, tu vois, et j'en parlais, j'ai enregistré un podcast avec PB, on oublie un peu cette phase, comme si on prend l'image d'un iceberg où on voit cette pointe hors de l'eau, et en fait, on voit jamais tout ce qui se passe en dessous de l'eau. Toute cette phase qui représente quasiment 3/4 de toute cette phase préparatoire pour un lancement, que ce soit une newsletter, un lead magnet, un podcast, du contenu finalement avec tout ce temps qu'on y passe, et toi d'autant plus sur un lancement à 7 chiffres. Si on reprend un peu les aspects santé, organisationnel, travail, comment est-ce que tu t'es préparé à ça? Comment est-ce que ça s'est fait pour toi?
Est-ce que avant de répondre, je peux prendre une toute petite pause?
Non, mais carrément.
Tu mets l'enregistrement sur pause? Alors déjà, du coup, d'un point de vue organisationnel, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'équipe, on a mis un vrai plan de guerre en place. C'est-à-dire que Sonia nous a construit c'est la gestion de projet de haut vol, quoi. Tu vois, vraiment avec des répartitions de charges de travail, un monitoring de charges de travail, une to-do list géante et exhaustive, tout ce qui doit être fait. Donc la to-do list, elle a genre 800 tâches dessus. Enfin, vraiment, on a tout préparé en amont, en sachant pertinemment qu'un plan a aussi vocation de ne pas être suivi parce que life happens, il se passe des choses, des fois on prend du retard, etc. Mais on a vraiment conscientisé tout ce qu'il y a à faire. On n'est pas allé en mode YOLO cette année, surtout pas avec des objectifs comme celui-ci. Et vraiment, on s'est mis d'accord sur une répartition des tâches, un process. On a des calls très réguliers. On avait notre call d'équipe du lundi, comme on a en fait toute l'année. Mais à ça, on a rajouté en plus avec Sonia un call entre elle et moi tous les vendredis en fin de semaine pour justement débriefer de la semaine, voir s'il y a des points stratégiques à faire entre nous deux pour nous permettre d'être encore plus réactives. On communique évidemment au quotidien entre nous, etc. Et moi, dans ma propre organisation, en fait, tout ce qui n'est pas dépendant du lancement a été supprimé dans l'emploi du temps. C'est-à-dire que clairement, toutes les collabs ont été mises sur pause, les demandes ont été refusées. Ce qu'on peut décaler en termes d'appels, d'opportunités business, on le décale pour après le lancement, etc. Donc vraiment pour me libérer la place et l'espace de bosser dessus. Donc ça, c'est plutôt pour la partie organisation business. Le côté organisation perso, bah, j'ai fait à peu près la même chose dans ma vie personnelle aussi. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas directement lié à cet objectif au lancement, je l'ai mis sur pause. Tu vois, typiquement, si je peux partager ça, j'ai un projet de déménagement, bah, évidemment, je vais pas déménager avant le lancement, tu vois. Enfin, ça a été reporté pour après. Pareil, les potes à aller voir, les voyages à faire, etc. On décale après. Et quand je dis après, c'est-à-dire que, on va dire pendant 3 mois. 3 mois, ça a été la période de gros rush sur ce lancement-là. Évidemment, on a commencé à en parler un petit peu avant. Mais là, on est vraiment sur 3 mois et les 3 mois se terminent le jour où la formation commence pour moi. Donc, le 4 avril. Ensuite, et c'est là où c'est peut-être un peu, enfin pas vraiment plus intéressant, mais c'est une nouveauté en tout cas pour moi, c'est tout ce qui est la préparation mentale et physique. C'est la première année où j'ai une approche en me disant je vais me préparer à ce lancement comme un sportif se prépare à une compétition, tu vois, clairement. Et j'ai vraiment conscientisé la chose que je n'avais pas faite sur les derniers lancements, et clairement ça m'a porté préjudice parce que je me suis fatiguée, je me suis brûlée et je me suis dit plus jamais je ne revis ce que j'ai vécu en termes d'énergie, de fatigue et de craquage sur les derniers lancements. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait d'un point de vue santé, c'est que j'ai pris un suivi avec une naturopathe que j'ai commencé dès le mois d'octobre 2021, donc presque cinq mois avant le lancement, en disant je veux être en meilleure santé possible, avec la meilleure énergie, parce que tu as besoin d'avoir une énergie de dingue pendant un lancement pour porter ton équipe et porter tes ventes aussi. Pareil, j'ai mis en place une routine sportive. Moi qui déteste le sport, mais c'est tellement nécessaire pour gérer le stress au quotidien que je suis arrivée dans ce moment où quelque chose ne nous plaît pas, mais ça fait tellement du bien que tu le fais quand même. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ça.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Et ton cerveau fonctionne un peu comme ça, où tu vas lui apporter, tu sais d'avance que ça va être bénéfique, mais comme c'est inconnu pour lui, bah, il préfère la situation qui est peut-être plus désagréable ou nuisible aujourd'hui que cette solution bénéfique, mais qui connaît pas, et du coup, il flippe de l'inconnu, quoi.
C'est exactement ça. Pour tout ce qui est la gestion du stress, parce que je suis quelqu'un de très anxieux et de très stressé, pareil, j'ai intégré du yoga dans ma routine, ma morning routine, alors que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, mais encore une fois, je sens tellement les bénéfices que je le fais quand même. Je fais très attention à mon alimentation, pareil, toujours dans un souci d'énergie, ne serait-ce que ne pas passer l'après-midi entier à digérer et du coup à être dans le coltard, et aussi en mode, ben, j'ai besoin d'être en pleine forme, j'ai pas besoin d'être malade pendant mon lancement. Voilà, je crois que j'ai fait quand même un bon tour. Mais ouais, c'est la première année que je suis autant attentive à tous ces aspects physiques, mentaux et d'énergie, de choses comme ça. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce que le lancement est 1000 fois plus stressant que tous les lancements que j'ai fait jusqu'ici. Mais je trouve que je gère 1000 fois mieux le stress, curieusement.
Ok. Si on reprend un peu dans l'ordre, là, tu parlais de l'Orga Pro, que tu avais fait une to-do longue de 800 pages. Comment tu organises un peu tes semaines, tu vois, tes objectifs semaines et tes objectifs journaliers? Est-ce que tu les as déjà répartis à l'avance? Est-ce que vous avez établi avec Sonia, pour rappeler qu'elle est ta business manager, est-ce que vous avez établi des steps, tu vois, des étapes, et du coup, tu te fixes par rapport à ça? Comment est-ce que vous avez établi ça?
Alors oui, effectivement, la to-do list, non seulement on l'a faite, mais en plus, c'est surtout Sonia qui a géré cette partie-là, elle a vraiment réparti dans le calendrier. Donc, on sait par exemple que cette semaine-là, on fait la page de vente. Cette semaine-là, on travaille sur le webinaire. Cette semaine-là, tout est déjà réparti à l'avance. Alors, on n'est pas allé jusqu'à faire la moindre petite tâche. Moi, j'ai encore tout le quotidien, tout le business à gérer, la création de contenu, les choses comme ça. Mais je sais que j'ai souvent une ou plusieurs grosses tâches. chaque semaine à faire qui sont, comme je disais, OK, cette semaine, on onboard les mentors. Cette semaine-là, on rédige la page de vente, etc. Okay. Donc oui, tout est préparé à l'avance. Ouais.
Et du coup, ça te permet, est-ce que tu as ce ressenti que déjà mentalement, tu vois, tu disais aussi, ça joue peut-être un peu sur ta préparation mentale, est-ce que ça te décharge tout ce côté mental de dire, OK, qu'est-ce que je dois faire par rapport au lancement, le fait que tout ait été établi à l'avance pour cette partie-là, en tout cas. Je sais que pour le reste, tu le fais déjà aujourd'hui.
Bah, curieusement, moi, c'est pas quelque chose que je kiffe. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça me soulage de savoir que tout est planifié parce que j'ai la sensation qu'on va rien oublier. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne pas très bien sous la contrainte, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est Sonia qui a fait l'emploi du temps et elle l'a fait d'un point de vue logique et de manière à ce que ça se goupille bien pour tout le monde. Sauf que moi, des fois, genre, exemple très précis, encore une fois, la semaine dernière, j'étais censée bosser sur le webinaire, sur la masterclass, et elle devait être prête pour la fin de la semaine. Sauf que moi, j'étais absolument pas ni dans l'énergie, ni la tête à ça, etc. Et j'ai du mal à bosser sur quelque chose qui ne va pas se dérouler tout de suite. Je suis très, très bonne quand je suis au pied du mur. Mais quand tu me demandes à faire un truc quatre semaines à l'avance, je vais avoir beaucoup de mal et je vais avoir tendance à procrastiner. Et je vis plus ça comme une contrainte, et du coup, une contrainte qui me stresse et qui génère de l'anxiété, plutôt que comme quelque chose qui me drive et qui me rassure. Même si je sais, encore une fois, évidemment, que dans ce contexte très précis, c'est nécessaire, on n'aurait pas pu faire autrement. Mais moi, j'ai du mal à me plier à un emploi du temps qui n'est pas celui que j'ai décidé, et encore plus quand j'ai besoin de sortir une grosse tâche, mais qui n'a pas vocation à exister et à être rendue publique tout de suite. Je ne sais pas si ça fait sens.
Ouais, si, ça fait sens. Et du coup, est-ce que tu te mets quand même dessus et tu te forces à ce moment-là, ou est-ce que tu emploies une autre stratégie ?
Alors, la moitié du temps, je me force, l'autre moitié du temps, je procrastine. Et après, j'arrive la bouche en fleurs à notre point d'équipe en mode « Ah, ben, j'ai pas fait ma tâche parce que je n'étais pas dedans. » Et du coup, il s'arrache les cheveux derrière. Je ne vais pas te mentir.
Non, mais c'est bien, parce que je pense que ça remet aussi tout le monde dans le contexte où, tu vois, c'est des choses où on parle très peu, ou en tout cas des entrepreneurs peut-être de haut vol ou comme toi vont pas forcément aborder. Tu vois, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ton podcast avec Alex Dana, où il parlait tant aussi de des phases, tu vois, de peu de résultats qu'il a eu dans les premières années, de tous ces burn-out que les entrepreneurs peuvent avoir et qui sont, tu sais, un peu milieu tabou, caché, ouais. Tabou, voilà, chercher le mot, merci. Et tu vois, personne, en tant que gros entrepreneur, entre guillemets, tu vois, de ce milieu-là, de l'infoprenariat, va dire de haut vol, ou comme tu viens de le faire, de dire « Ouais, ça m'arrive de procrastiner, et les gens s'arrachent les cheveux derrière, tu vois. » Et d'autant plus dans un truc qui est challengeant pour toi, parce que ça représente 90% de ton chiffre d'affaires, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, je trouve ça très cool, tu vois, de remettre les choses dans le contexte et finalement s'apercevoir que, oui, on est tous humains, et peut-être que, et je sais que tu l'as partagé récemment un peu à la 4 accords Toltec, tu vois, de faire de ton mieux, tu vois, tout simplement. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit, peut-être à un moment donné, bah, tu sais que pour toi, ça fonctionne pas d'être autant à l'avance que ça, et que t'as eu besoin de t'écouter à ce moment-là, de te mettre sur autre chose qui était peut-être plus important pour toi, et qui nourrissait peut-être finalement plus tes valeurs, quoi.
Je pense que tu as très bien résumé, effectivement, enfin, personne n'est parfait, certainement pas moi, aucune équipe n'est parfaite, et le gros problème de mon équipe, qui est en fait mon problème, c'est que j'en fais qu'à ma tête. Et c'est que si à un moment je dois faire quelque chose et que je suis pas dans l'énergie ou que j'ai pas envie, j'aurais beau me forcer, je vais pas y arriver. Et donc en fait, je vais pas le faire, je vais faire autre chose. Et bah derrière, ça met parfois en péril toute l'organisation qui a été si bien préparée par ma super équipe. J'essaye vraiment de travailler dessus, c'est très compliqué pour moi parce que c'est mon système de fonctionnement depuis toujours et j'ai beaucoup de mal à le changer. Donc voilà, on est en train d'explorer d'autres manières de faire. Mon équipe commence à me connaître aussi, donc ils sont en mesure d'anticiper. Et puis, je suis confiante sur le fait que on va trouver une méthode de fonctionnement qui convient à tout le monde, quoi.
Ouais, j'en doute pas aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, t'es très bien entouré. Tu as su t'entourer comme il fallait dans tous les cas. Si on passe après sur cette partie un peu perso, tu disais que tu ralentissais un peu les potes, les voyages et autres. Tant les voyages, ça peut se prévoir si tu les fais toute seule ou tu vois que t'avais pas prévu des choses à l'avance et que tu dois reporter. Comment est-ce que tu fais, tu vois, pour tout ce qui est relations, famille, amis, est-ce que tu préviens les gens en avance ou est-ce que tu disparais du jour au lendemain, tu vois? Comment est-ce que t'anticipes un peu ça aux yeux des gens qui t'entourent et qui sont importants pour toi?
Alors, je préviens toujours et généralement, les gens, je parle beaucoup de ce que je fais, donc ils sont au courant que la période de janvier à début avril, c'est la période de mon lancement. Ils savent très bien ce que ça représente pour moi. Ils savent que pendant cette période-là, je suis aux abonnés absentes. Alors, je réponds aux messages, évidemment, mais de même, en fait, ils évitent de trop me solliciter, de me proposer de sortir, etc. Ils m'envoient des petits messages de soutien et ça se passe toujours très bien.
Ok. Et tu penses que... Enfin, est-ce que tu le vois comme ça au fur et à mesure que t'as mis ça en place, que pour eux aussi, c'est important, tu vois, que tu les préviennes et qu'ils comprennent et que ça permet d'avoir aussi peut-être du soutien de leur part?
Je me suis pas posé la question. pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'ils comprennent et que je les prévienne parce que on change pas de comportement avec ses proches du jour au lendemain sans se donner d'explication. Enfin, en tout cas, pas dans ma manière de faire. Mais je pense que oui, enfin, de toute façon, c'est la communication, hein. C'est très important de toujours dire, voilà pourquoi mon comportement change, voilà ce qui se passe, non, c'est pas contre toi, voilà comment tu peux me soutenir au mieux, enfin, voilà, quoi.
Ouais. Là, je te posais cette question parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui anticipent, tu vois, de dire oui, mais qu'est-ce qu'il va penser, tu vois, et puis derrière, tu sais, d'anticiper aussi ton résultat, de dire ouais, ça marche pas, il va me dire que j'ai fait tout ça pour rien et que j'ai perdu du temps. Et ouais, si je te dis ça, c'est que du coup, j'ai un retour sur les coachings. Et je comprends ce mode de fonctionnement parce que comme tu l'as dit, tu vois, ça reste des règles de base de la communication. Mais aujourd'hui, on le voit que la communication est un réel problème et d'autant plus avec l'actualité en ce moment. Que tout parle d'un problème de communication finalement, ou très souvent. Je trouve ça malheureux, mais c'est la triste réalité de l'humain en règle générale. Et si on t'enseignait ça à l'école, tu vois, avec des choses que j'ai vues moi à mon stage de base PNL, peut-être que t'as vu avec Franck à l'époque, juste comment mieux communiquer. Putain, on t'apprendrait ça dans le système éducatif. Je pense que ça changerait du tout au tout, tant dans la relation entre les élèves qu'avec les profs, que après. Dans le milieu personnel et professionnel. Et pourtant, c'est tellement basique. Mais bon.
Ah ben, je dis toujours, si à l'école, on nous apprenait le développement personnel, la communication et la nutrition à la place d'autres choses peut-être un peu moins utiles, on changerait beaucoup, enfin, on réglerait beaucoup de problèmes dans la société.
Mais oui, mais c'est tellement trop dangereux. Tu vois, comme ils ont réussi à je ne sais plus à quel endroit de la France c'est, où ils ont réussi à faire supprimer de la méditation. Parce que c'était une attaque psychique aux enfants, s'il te plaît. Tu vois, pour te dire à quel point on va, parce que bah ouais, ça te permet d'ouvrir et d'être peut-être plus aligné, plus en face avec toi-même, et de créer des meilleurs humains. Mais finalement, ça a l'air d'être flippant pour notre monde d'aujourd'hui. Donc, mais bon, dans tous les cas, le Covid a bien aidé à amener tout le monde vers ça. Donc c'est déjà une bonne chose là-dessus. Si on vient après sur ta partie un peu santé, préparation physique et mentale, comment est-ce que tu sens le changement du coup que tu as très bien anticipé du coup quand on voit que tu t'es mis 5 mois en avance est-ce que tu sens les changements du coup tant au niveau de l'insertion de ta routine sportive que du yoga que du fait d'être passé par une naturopathe et de ton alimentation?
Alors oui je sens clairement les changements. Des périodes que je vis en mode stress, rush, dose de travail à faire, etc., je les vis beaucoup mieux que j'aurais pu les vivre il y a un an, et je me rends compte en fait de l'impact direct de toutes les routines que j'ai anticipées, que j'ai mises en place par rapport à ça. Un exemple très précis, c'est effectivement, on l'a pas précisé, mais non seulement en 3 mois, je prépare mon lancement à 7 chiffres, en plus, je m'étais mis en tête de refondre entièrement et de retourner, de recréer ma formation. Et évidemment que mon équipe m'a dit, dès le mois de juillet, il faut qu'on le fasse maintenant. Et évidemment que pour moi, c'était trop loin dans l'année, donc j'ai attendu le dernier moment pour m'y mettre, c'est-à-dire le mois de janvier. Et donc, en fait, fin janvier, je suis arrivée dans un moment où j'étais à la fois en plein dans les tournages, refaire toute la formation, qui est quand même un travail qui nous a pris un mois et demi, et en plein dans le « oh punaise, il faut commencer à préparer le lancement » qui est dans moins de 2 mois. Et en fait, il y a eu une semaine particulièrement fin janvier où le pic de stress était tellement intense que là, j'ai vraiment cru pour la première fois de ma vie que je n'allais pas y arriver. Mais vraiment en mode, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et je me souviens vraiment d'être dans ce moment de découragement total, pas baisser les bras, mais en mode, même avec toute la volonté du monde, je ne vois pas humainement comment ça va être possible. Et ça a généré un stress intense pour moi, du style stress qui te tord l'estomac, qui te fait vomir, qui t'empêche de dormir la nuit, etc. Et en fait, c'est vraiment à ces moments-là que j'ai redoublé en fait toutes mes routines, c'est-à-dire que j'ai passé plus de temps à faire du yoga, plus de temps à faire du sport, plus de temps à aller marcher, même avec la to-do list énorme qui s'accumulait, mais à me forcer à aller prendre l'air, à aller souffler. J'avais mon petit roll-on d'huile essentielle que je mettais dans les creux des coudes, des poignets, etc. Et au final, en faisant bien ça, en m'appliquant d'autant plus, en moins d'une semaine, la sensation est passée. La to-do list n'a pas diminué, le contexte n'a pas changé, mais on va dire que ma perspective, mon énergie, mon approche, du tout au tout. Et c'est passé.
Ok, donc c'est vraiment, pour résumer, en ralentissant finalement dans ton activité business, en prenant plus de temps pour toi, pour te retrouver tant au travers de la marche que ton activité sportive, que le yoga, qui t'a permis de gérer un peu cette phase de stress, de pic d'émotion qui était là, et qui pourtant te faisait ralentir, et du coup t'as ralenti toi-même et du coup avec ton activité business pour beaucoup plus te recentrer sur toi.
Je sais pas si j'aurais employé le mot ralentir, mais c'est effectivement peut-être avoir une approche plus méta sur ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire plutôt que de subir en fait la to-do list, la charge de travail, le stress, chose que je faisais avant, de me dire non, je refuse de subir ça et je vais prendre du recul, le recul étant le yoga, la méditation, le sport, la marche, et ce recul-là t'aide à canaliser tes émotions, à canaliser ton stress et du coup à te rendre beaucoup plus efficace et productif ou productive à côté. VS que si tu subis le truc et que tu es sans cesse dans ta petite roue en train d'essayer d'écoper le bateau qui est en train de couler, en subissant le stress qui, j'en suis persuadée dans mon cas, me rendait beaucoup moins productive, beaucoup moins efficace parce que j'essayais de donner de la tête de partout et de tout faire en même temps tout en étant stressée, donc moins efficace.
Ok. Et est-ce qu'il y a un de ces trucs-là qui t'a le plus aidé ou c'est vraiment, tu vois, a posteriori quand tu y repenses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment le cumul de ces trois choses que tu as mis en place?
Je pense qu'il y a deux choses en particulier dont j'ai vraiment senti les bénéfices. D'un point de vue naturopathique, on est passé en mode de micronutrition pour le lancement, donc complément alimentaire le matin, etc. Après, moi, j'ai une santé un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai des gros dérèglements hormonaux qui font que je suis suivie là-dessus depuis toujours. Mais on est vraiment venu travailler là-dessus avec la micronutrition. Bon, évidemment, je suis pas là pour faire une prescription médicale pour qui que ce soit, hein, que ce soit bien clair. Mais dans mon cas, c'était une forte complémentation en iode, en zinc, en magnésium, en spiruline, des choses comme ça. Donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé. Et le matin, la routine yoga plus étirement du matin, qui est un truc que je déteste faire. Soyons clairs, mais que je déteste faire. Mais clairement, le fait d'en faire 10 minutes puis 20 minutes dans les fameuses semaines de gros rush, c'est quelque chose qui me mettait dans une énergie totalement différente pour la journée, et surtout j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus alignée, avec une énergie répartie de manière plus uniforme, si ça fait sens aussi. Mmh. Et clairement, ça m'a aidé à traverser cette période un peu dure.
Ouais, je trouve ça vraiment cool. Et du coup, est-ce que, mais clairement, pas de prescription médicale, parce que c'était quelque chose qui était adapté pour toi, qu'on soit bien d'accord.
Ah oui, hein, vous amusez pas à faire les apprentis chimistes.
Ouais. Moi, je sais que j'ai eu une période de down à peu près à fin d'année à ce moment-là. Et du coup, j'avais fait un soin énergétique et tu vois, elle m'avait mis au point où elle me dit, mais fais aussi peut-être une analyse de sang parce que si t'as une carence quelque part là-dessus qui
t'aurait complété,
elle dit, ça peut jouer également. Finalement, bah, j'avais bien un petit souci aussi énergétique. Ça m'a permis de me recadrer. Mais du coup, ça fait sens quand tu parles de yoga parce que du coup, je m'y suis mis aussi et ça fait une grave différence. Est-ce que t'as pris des cours, toi, avec quelqu'un ou est-ce que t'as pris une appli un peu à la Don Dog, tu vois, pour te suivre un peu une routine et te la programmer toi-même?
Encore plus simple que ça, je vais sur YouTube et je tape routine matin débutant 10 minutes. Et je suis les premières vies. Et j'ai une petite playlist et je suis la playlist. Mais alors vraiment, je me suis vraiment pas cassé la tête, quoi.
Top. Vas-y, moi, je t'invite à essayer Don Dog, du coup.
Ok.
Tu choisis, tu mets le niveau que tu veux. Franchement, j'ai demandé à une pote qui faisait du yoga, j'ai demandé à plusieurs. Et j'ai testé, je sais que t'en as discuté avec Silou il y a pas longtemps, là, du co-living, quand je t'avais orienté. Au premier co-living où je me suis retrouvé avec elle. Il y avait un couple qui faisait ça, ils nous ont mis la routine, moi, eux, 45 minutes, je fais qu'un quart d'heure aujourd'hui, 45 minutes, c'était très long, et en plus, c'était des niveaux, genre, avancés, tu vois, genre 4 sur 5, ils m'ont tué.
Ah ouais.
Mais j'ai senti, comme tu l'as dit, tu vois, j'ai trouvé que ça a créé un changement, tu vois, et c'était un truc où je voulais me mettre, moi, depuis longtemps, que je repoussais, peut-être une question d'image aussi, j'en sais rien, ce que je me racontais à ce moment-là, mais je trouve que ça a aussi créé beaucoup de changements chez moi, et donc, du coup, je trouve ça vraiment cool. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose qui marche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pris goût, du coup? Parce que tu disais que c'était quelque chose que tu détestais, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu le détestes toujours, mais tu le fais quand même?
Je déteste toujours, je le fais quand même. Je suis moins régulière en ce moment, enfin, à l'époque à laquelle on enregistre cet épisode de podcast, parce que le stress est tellement retombé. C'est-à-dire que je suis retournée dans une énergie de « Ok, c'est stressant, mais c'est du stress qui est challengeant, qui est un peu dans l'adrénaline et pas du stress qui te pèse. » Donc, je t'avoue que je procrastine un peu là-dessus en ce moment. Je suis toujours pas en mode « Ouais, je kiffe ça, youhou, allons-y, tu vois. » Mais je sais que c'est une corde de plus à mon arc et qu'elle est là, prête à dégainer dès que j'en aurais besoin, quoi.
Ok, top. Mais voilà, tu sais que du coup, t'arrives, comme tu le disais, à voir que ce stress, il est beaucoup plus positif en ce moment. T'en as un peu besoin et que le jour où ça revient, tu sais qu'il faut que tu rééquilibres la balance à ce moment-là. Et je trouve ça juste génial. Est-ce que sur le côté mental, est-ce que t'as mis des choses en place, tu vois, on le voit beaucoup sur les sportifs où il y a des préparations mentales avant. Que ce soit sur des protocoles ou des choses de peut-être d'itération, de répétition que tu as mis en place, ou vraiment strictement ce que tu nous as dit.
Je pourrais rajouter, c'est pas directement lié, mais je pense que forcément ça joue. Je me fais coacher sur mon leadership et mon management par une coach certifiée depuis début janvier. Donc forcément, on travaille beaucoup sur aussi ce que je vis pendant le lancement, mon stress, etc. À la base, je dis que c'est pas directement lié parce que c'est vraiment un coaching que j'ai pris pour devenir une meilleure leader et une meilleure manager à la fois pour mon équipe, pour la vision que j'ai, ce que j'ai envie de construire, mais aussi du coup pour la communauté. Donc c'est pas en mode aide-moi à gérer mon lancement ou quoi que ce soit, mais après forcément comme tu travailles sur toi, sur ton développement personnel, etc. Forcément, ça a des répercussions sur la manière dont tu gères le lancement, quoi.
Ouais, tu vois vraiment une différence. Est-ce que ça, tu l'as à chaque phase de lancement, ce coaching, ou est-ce que là, c'était vraiment cette année parce que tu avais prévu ça vraiment cette année et que c'est tombé un peu par hasard, du coup
C'est tombé complètement par hasard parce que j'avais cette envie, puis j'ai rencontré la bonne personne juste avant, enfin, fin d'année 2021. Donc j'ai dit, bon, bah, go, hein, allons-y. Je peux pas dire que je vois des résultats concrets, genre avec des exemples que je peux te citer comme j'ai fait jusqu'ici. Mais par contre, enfin, ça reste un travail de fond et tu te sens changer, tu te sens mûrir, tu te sens prendre confiance en toi, tu te sens être peut-être plus à l'écoute aussi de certaines choses. Enfin, donc ça, c'est plus un travail de fond, je dirais.
Ouais, mais tu sens pas dans le concret peut-être autant que tu peux le mesurer sur des accompagnements business, mais tu sens en toi, en tout cas, des changements peut-être tant au travers de ton leadership que ton bien-être, que la relation que tu as avec toi-même finalement.
Ah bah forcément. Après, rares sont les fois où tu te fais coacher et t'observes des changements chez toi. Hein.
Je suis d'accord, mais c'est vrai que tu vois, pour les personnes, moi je le vois en tout cas sur cette partie où c'est vrai que l'année dernière, un peu quand je suis rentré à la BSB, où je me suis un peu égaré, tu vois, à mélanger cette partie un peu de mindset, de leadership et la partie business. Et les gens en fait mesurent beaucoup plus le résultat tangible pour eux, tu vois, en termes de chiffres ou autre, que de se dire ok, ça va m'apporter quelque chose que je peux pas palper finalement, tu vois.
Ouais, c'est entre guillemets le souci du coaching, c'est que tu peux pas promettre un chiffre d'affaires précis ou quelque chose de ce genre-là. Mais après, enfin, toi, du coup, moi-même, coach, d'avoir suivi une formation, quand je me fais coacher, ce qui arrive de manière ponctuelle, parce que je suis plutôt de la team, je me fais coacher que quand j'ai un besoin précis, pas forcément en continu, je suis très, on va dire, très lucide sur le fait que j'attends pas de résultats concrets de mon coaching. Évidemment qu'il va y en avoir. Et évidemment que je vais travailler sur moi et changer et que ce sera un changement qui va m'accompagner toute ma vie, mais je suis pas là avec un objectif en mode ok, il faut qu'à la fin de mon coaching j'ai accompli tel objectif, en mode smart, avec des objectifs mesurables, atteignables et tout machin. Donc non, là-dessus je suis très 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 à l'aise.
Ok, et est-ce que du coup tu dirais c'est intéressant le point de vue que tu as, parce que du coup est-ce que ça te permet d'enlever une attente au résultat et du coup d'avoir peut-être une meilleure transformation?
C'est un point de vue intéressant, je ne l'avais jamais formulé comme ça. Certainement, je pense que tu es peut-être beaucoup plus ouvert et attentif à ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, c'est pas du tout péjoratif, mais malléable pour ton coach, dans le sens où toi-même, tu t'es pas enfermé dans une optique de ça va se passer comme ça et je vais avoir tel résultat. Et du coup, tu es beaucoup plus réceptif à tout ce que le coach peut vouloir te faire faire en termes de travail, de direction à prendre, de choses comme ça. Enfin, moi, je sais que mon coaching a pris une direction qui n'était pas du tout celle que j'attendais, mais j'étais totalement ouverte à celle-ci. Enfin, une dimension plus personnelle, du coup. J'étais totalement ouverte à celle-ci parce que, justement, je pense que je n'avais pas d'attente spécifique en mode « je veux avoir une équipe de 70 personnes à la fin de ce coaching », quoi, tu vois.
Ouais, du coup, ça t'a permis, de peut-être un peu comme tu le dis, d'être beaucoup plus dans l'instant présent et dans le moment présent et, du coup, d'être réactif à l'évolution. Et finalement, ce que t'as amené ta coach, entre guillemets, c'est toi qui l'as amené par toi-même. Tu sais aussi comment ça fonctionne.
Oui.
C'est ce que toi, en fait, t'as dégagé à ce moment-là qui fait que t'es parti sur cette voie-là, dans tous les cas. Et je trouve ça juste génial, du coup.
Merci. Bah ouais, c'est un beau coaching que je suis en train de vivre. Je suis très contente.
Ouais, c'est très cool. Et du coup, tu ressens vraiment, peut-être pas comme tu le disais de manière palpable, mais la contribution en tout cas à peut-être ton bien-être qui permet d'être beaucoup plus efficace sur ton lancement, le fait d'avoir ce coaching en ce moment.
Oui, de toute façon, quand tu as de la clarté sur toi, et un coaching, c'est avant tout de retrouver de la clarté sur toi-même, tes envies, qui tu es, tes points forts, tes points faibles, ce que tu veux, ce que tu vaux aussi. Forcément, tes actions après sont plus alignées et tu sais plus vite aussi déterminer ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, ça drive ton lancement. Ça t'aide aussi à être peut-être non seulement plus ferme dans les décisions que tu prends, mais aussi plus clair pour les gens qui t'entourent et qui collaborent avec toi. Donc, oui, moi, je vois que des bénéfices.
Ok. Et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qu'il faut faire? Bah, comme tu disais, toi, t'es plus en mode, je sais qu'il y en a qui sont à l'année, je sais qu'il y en a, c'est au cas par cas. Moi, ça dépend des moments. Est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu verrais comme un complément à un accompagnement business ou quelque chose à faire peut-être au moment où ça te parle et tu dis ok, j'ai besoin d'un coup de boost ou de travailler sur moi? Comment est-ce que tu vois ça un peu?
Ben, c'est comme on commence à le dire et ce que tu viens de dire, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui vont aimer se faire coacher en continu, soit en gardant la même personne, soit en changeant de coach. Il y a des personnes comme moi qui vont plutôt attendre d'avoir un besoin précis, qu'ils arrivent à se dire « Ok, je peux pas le régler tout seul, je peux pas y arriver tout seul, je vais me faire aider. » Et se faire aider sur un point, sur de manière ponctuelle sur ce point-là, quoi. Donc, j'ai pas envie de me risquer à dire il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois, parce que c'est vraiment, ça appartient à chacun. Mais en tout cas, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est j'ai un problème, j'essaie de le résoudre toute seule. Si j'y arrive pas ou si j'ai pas le temps de le résoudre toute seule, là, je fais appel à quelqu'un sur ce point précis.
Ok. Et est-ce que tu as, parce que du coup, on est sur ce moment-là, est-ce que tu as peut-être, toi, ta façon de sélectionner ou de choisir, tu vois, pour quelqu'un qui va se retrouver peut-être dans cette phase où, ok, je suis arrivé peut-être au bout de ma formation accompagnement business, où je rends compte que j'ai des problématiques, tu vois, j'ai essayé tout de régler avec les fiches d'auto-coaching qu'on m'a filé, tout ce que j'ai trouvé sur le net ou tout ce que j'ai déjà fait avant, j'y arrive pas, comment je choisis, tu vois, le coach qui est fait pour moi et d'être sûr que, tu vois, ça va bien se passer.
Bon, après, on n'est jamais sûr à 100%.
On n'est jamais sûr, mais tu vois, de valider peut-être, tu vois, des étapes ou ta façon de voir les choses, tu vois.
Alors, je pense que le critère numéro un, c'est le feeling que tu as. Je ne pense pas qu'il y ait de bon, de mauvais coach. Je pense juste que, en fait, c'est une question de personnalité. Moi, j'aime travailler avec des gens qui me ressemblent. Donc, c'est-à-dire que si on résume en termes de couleur 10, moi, je suis quelqu'un de très rouge, je suis une fonceuse, je suis un signe du feu, je parle vite, j'aime pas perdre du temps. Et donc, si tu mets en face d'un coach qui est très dans la contemplation, qui parle lentement, qui va puiser dans les émotions, l'énergie, c'est quelque chose qui va très vite m'énerver, mais vraiment très vite m'énerver. Donc, et me frustrer. Donc, il me fallait une coach comme moi. Ça, c'était assez clair. Et ensuite, moi, je fonctionne pas mal en mode loi d'attraction. C'est généralement dans ma vie, quand j'ai besoin de quelque chose et que je me le dis, c'est une pensée qui me trotte en tête, hein. Je fais pas d'affirmation ou quoi, mais c'est un truc qui tourne dans ma tête. Généralement, je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Et donc là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est que je commençais à me dire depuis quelques semaines, ouais, il faudrait que je prenne un coaching, un leadership, je sens que c'est le bon moment, etc. Boum! Une personne me contacte en mode « Aline, j'ai un petit podcast, est-ce que tu veux venir faire une interview sur mon podcast ?» On a enregistré l'interview. Pendant l'interview, je me suis dit « Ouais, ça matche bien, les énergies et tout. » Cette personne était coach, ancienne manager dans un gros groupe, des choses comme ça. Elle me parle un peu de son activité, j'ai fait « Allez, c'est bon, travailler ensemble. » Donc, voilà.
Ok, comme quoi tout peut arriver. C'est vraiment, ouais, c'est pour toi, ça a été et le feeling et l'énergie de la personne finalement qui était vraiment importante pour toi. Et ce fait que bah ça tombe au moment opportun et que toi c'est peut-être aussi ton système d'intuition, d'autorité intérieure qui t'a parlé à ce moment-là, qui t'a dit ok c'est elle, tu vois.
Je pense que pour adresser une réponse peut-être un petit peu plus concrète pour les gens qui nous écoutent, il faut d'abord que nous-mêmes on soit très clair sur ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un coaching? Pas parce que c'est à la mode, pas parce que on m'a dit que, mais qu'est-ce que je veux avec ce coaching? Sur quoi j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que j'attends de mon coach aussi? Parce qu'il y a autant d'approches que de coach, il y a autant de personnalités, d'énergie que de coach. Donc, dans l'idéal, quelle personne j'aimerais avoir en face de moi? De quoi j'ai besoin? Et en fait, plus on va arriver à être clair, plus on va pouvoir choisir la bonne personne pour nous. Et le dernier critère étant, évidemment, il faut faire un premier appel avec la personne, si possible d'une heure, pour essayer d'échanger, de papoter, de cerner si l'énergie de la personne en face de nous est cool, si c'est quelqu'un qui nous donne de l'énergie ou qui nous en prend, et après on quitte l'appel, on est en mode, tu vois, enfin.
Ok. Et est-ce que, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça quand tu t'as parlé d'elle un peu, est-ce qu'à un moment donné, ça, ces résultats, pas les résultats clients, on peut en parler, est-ce que les résultats clients qu'elle a eu ont été importants pour toi, ou est-ce que ces résultats de chiffre d'affaires ont été importants pour toi? Ça, je vois qu'il y en a beaucoup qui bloquent par rapport à ça, tu vois, de dire ah ouais mais il a pas de chiffre, il est mauvais, tu vois, de faire ce raccourci de croyance. Est-ce que ça a été un ou deux éléments qui ont été importants pour toi?
Alors absolument pas, je lui ai même pas demandé combien de clients elle avait eu avant moi, ni les résultats et tout. Elle me les a partagés après, pendant notre premier appel découverte, etc. Mais pour moi, c'était pas important parce que déjà, je suis pas à la recherche d'un résultat du tout. Donc j'ai pas, et je suis à la recherche d'un coaching, d'un accompagnement. Et pour moi, tu peux pas. Enfin, c'est pas des témoignages qui disent oui, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires qui vont me dire ok, c'est la personne qu'il me faut, pas du tout, parce que c'est pas ça que je recherche, quoi. Donc non, c'était vraiment l'énergie, l'échange, les prises de conscience qu'elle m'a fait faire, ne serait-ce que pendant notre enregistrement de podcast, où je me suis dit ah ouais, ça matche bien. Et je pense la compréhension qu'elle a eue de moi et de qui j'étais. Et je suis en train de voir s'il y avait d'autres critères qui ont joué. Bon, après forcément un petit peu son background, le fait qu'elle ait été coach certifiée, ça, pour moi, c'était important. Okay. Et puis, effectivement, j'ai la chance de, comme je suis coach, bah, quand tu parles avec un autre coach, tu vois tout de suite s'il s'est posé des questions pertinentes et si il arrive à taper dans le mille, ou si au contraire, il tourne un peu autour du pot et que la méthodologie te convient pas. Et donc là, ça convenait très bien, quoi.
Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a tilté? Ça m'a tilté quand t'as dit, tu vois, le fait qu'elle soit coach certifiée, mais t'as parlé de son background. Est-ce que c'était vraiment que ça, ou est-ce que c'était son background aussi en tant que manager? C'est quoi qui t'a vraiment peut-être le plus impacté ou les deux, trois steps qui t'ont impacté là-dessus?
Alors, moi, ce qui me rassure chez le coach certifié, c'est que je sais qu'il est formé à la méthodologie du feedback, du fait de poser des questions pertinentes, etc. Quand tu n'as pas suivi de formation, que tu n'es pas certifié, c'est très compliqué parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, tu vois. C'est une méthodologie qui s'apprend, c'est pas quelque chose, c'est pas un talent avec lequel tu nais et que tu n'as pas besoin de travailler. Enfin, évidemment, tu peux avoir une intuition, tu peux avoir des qualités humaines qui font que il y en a qui vont faire peut-être de meilleurs coachs que d'autres. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille, et tu peux pas t'inventer coach du jour au lendemain parce que t'as lu un bouquin, tu vois. J'ai été la première à le penser à un moment et à me dire coach et tout. Et en fait, non, t'as vraiment besoin d'apprendre. Donc, pour moi, quelqu'un qui est certifié d'une école, c'est pour moi la certitude que je vais pas perdre mon temps parce que cette personne est formée à l'accompagnement, au questionnement, au feedback, etc., et qu'on va vraiment pouvoir être efficace dans notre travail. Et aussi, évidemment, son background en tant que manager d'un gros groupe, de grosses équipes, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup parce que j'ai besoin aussi de management. C'est quelque chose que je souhaite travailler. Je me suis assurée avec elle, avant de commencer le coaching, qu'elle était OK de passer en consulting à certains moments pour me donner des tips sur le management. Et donc ça, c'était vraiment ce que je cherchais.
OK. Et ouais, je trouve que les deux sont vraiment cool, tu vois, de voir un peu l'approche que tu as eue. Et oui, je valide totalement l'approche certifiée. J'ai vu la différence, tu vois. Moi, quand j'ai fait l'accompagnement avec Geoffrey, qui est passé avant toi sur le podcast, où j'ai vu clairement une différence dans mon approche du coaching, tant au travers du questionnement que des feedbacks, ça a créé un vide où j'ai l'impression d'être passé, je sais pas, des Alpes à l'Everest, tu vois. C'était un délire. Et je comprends un peu cette vision et pas de dire, OK, je voulais juste quelqu'un qui soit certifié. C'est pour ça que je voulais voir un peu ton avis là-dessus. Parce que tu vois, tu sais que l'approche va être bonne derrière. Et c'est ça que tu vas chercher, de la structure, peut-être la pertinence aussi, comme tu le disais, des questions que tu as pu expérimenter avec elle quand tu as fait cet échange d'une heure. Et après, de voir aussi un peu son background dans lequel tu t'es dit, OK, ce côté managérial, j'en ai besoin parce que je fais grossir mon équipe. Je trouve ça vraiment cool, en tout cas, que tu nous aies partagé tout ça. Et je pense qu'on a fait un gros balayage de comment tu t'es préparé à ce lancement. Ça fait déjà une bonne heure, je pense, qu'on est sur ce podcast. On va pouvoir y mettre fin, mais comme tu le sais, j'ai des petites habitudes et il y a une question que je t'ai pas posée, je crois, à notre premier podcast, et je vais te la poser aujourd'hui. Qui est-ce que t'aimerais entendre sur ce podcast derrière toi?
Oh, la bonne question. Alors là, comme ça, j'en ai aucune idée.
Moi, tu sais que tu pourras m'envoyer quelqu'un.
Ouais, je pense que je vais réfléchir, dormir là-dessus et t'envoyer une suggestion. Ouais, t'envoies une suggestion.
Ouais, je sais que je t'avais pas posé la dernière fois celle-là, mais comme tu le sais, on en a discuté encore hier, où je l'ai fait vraiment au feeling et à répondre aux questions, et c'est l'avantage, je pense, avec le background de coaching, comme on le disait, d'être beaucoup plus humain et de réagir et d'interagir que d'avoir des questions types. Et comme tu le sais, j'aime bien laisser le dernier mot à mon hôte sur ce podcast. Donc si tu veux dire quelque chose, l'antenne est à toi.
Déjà, merci, parce que j'adore parler de ces sujets, surtout que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter moi-même. Là, tout ce qu'on a dit en termes de préparation mentale, physique, santé, énergie et tout, c'est quelque chose que je suis en train de tester pour la première fois. Donc, trop contente de pouvoir partager tout ça, tout ce que j'ai mis en place et puis les résultats avec toi et avec ton audience. Et puis, peut-être juste rappeler le disclaimer qu'on a déjà dit, mais qui, pour moi, sont importants. Enfin, tout ce qu'on a partagé, non seulement il faut remettre dans le contexte que c'est un gros lancement à 7 chiffres, un gros business, j'ai déjà eu des lancements, enfin... C'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place tout de suite dès le début. Mon premier lancement, j'étais absolument pas en mode oui, sport, nutrition, accompagnement, leadership, trucs comme ça. Et qu'on n'a pas besoin de ça pour lancer ses premières offres. Et oui, voilà, savoir ce qui nous correspond à nous et pas penser qu'on doit tout faire de cette manière-là pour que ça fonctionne, bien loin de là. J'ai fait des lancements très, très intéressants d'un point de vue chiffre d'affaires en mettant même pas un dixième de tout ce que je viens de citer en place. C'est juste que voilà, forcément. Plus on progresse, plus on conscientise ce qui fonctionne pour nous et ce dont on a besoin, et plus on peut mettre en place les bonnes actions. Et encore une fois, j'en suis à mon troisième gros lancement là.
Top, merci. Je suis vraiment content, en tout cas, que pendant cette phase de lancement, parce que là, on est le 8 mars quand on enregistre ce podcast, t'aies pris ce temps pour nous partager ça. Je te remercie encore une nouvelle fois d'être intervenu sur ce podcast. J'ai vraiment passé un très bon moment avec toi.
Eh bien, tout pareil. Merci Nicolas de m'avoir laissé cet espace de parole, parce que sujet passionnant pour moi, et trop contente d'avoir pu échanger avec toi.
Ouais, merci, et je vous retrouve mardi dans un nouvel épisode. Ciao.
Bye tout le monde.